Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes doivent avoir un dos solide pour se lancer en affaires. Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 12 octobre 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est par un excellent repas et une table ronde mettant en vedette trois entrepreneurs que s'est ouvert le second week-end inspirant du programme Solutions Repreneuriat en un an. Conseils pertinents et témoignages touchants ont été généreusement offerts. Simone Cormier, Myriane Ouellette et Nathalie Vanner sont les chefs d'entreprises très différentes. Une manufacture, une entreprise de consultation organisationnelle et une entreprise de service direct aux personnes. Et pourtant, leurs expériences ont de nombreux points en commun, étant avant tout des femmes. Nous, les femmes, nous avons des croyances limitantes qui nous viennent de notre enfance et que nous devons surmonter et que les hommes n'ont pas, dit Myriane Ouellette, fondatrice et actionnaire principale de Haut Stratégie au Nouveau-Brunswick. Simone Cormier a fondé son entreprise sans aucune expérience. À force de recherches et d'essais et erreurs, elle a mis au point une prothèse mammaire entièrement naturelle, légère et hypoallergénique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une scientifique, je suis juste moi. Au fond, pourquoi les gens m'écouteraient et croiraient à mon produit? A-t-elle confié, se demander parfois par manque de confiance. Établir son produit prend plus de temps que prévu, mais elle n'abandonne pas. Ça prend du temps de faire sa place. Je ne fais pas cela pour moi. Je le fais pour toutes les femmes qui subissent ce genre d'opération, dit-elle avec émotion. Le grand conseil de Nathalie Vanner, propriétaire, fondatrice et seule employée de Balzio Reflexology Clinic, c'est de ne pas écouter toutes les personnes qui vous transmettent leurs peurs et vous font douter. J'ai appris assez tard, mais j'ai appris que si j'ai un projet auquel je tiens, j'attends avant d'en parler, sauf à quelques personnes de confiance, dit-elle. Son entreprise offre deux types de traitements, la réflexologie plantaire et la thérapie auriculaire. C'est vrai que ce n'est pas connu. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai distribué des dépliants et j'ai aussi intégré le réseau de l'Institut des femmes, ce qui m'aide à réseauter. Ma page Facebook est un bon tremplin et j'ai aussi commencé à écrire des articles sur la santé dans le journal local. Ça me fait connaître, dit la thérapeute qui a ouvert son entreprise il y a 15 mois. Myriane Ouellette est native du Manitoba, mais vit au Nouveau-Brunswick où son entreprise a son siège social. Ma compagnie a décollé vite à cause de mon approche basée sur l'humain. Et quand la pandémie a frappé, j'ai perdu 75 000 $ juste comme ça. J'avais peur de devoir fermer mes portes, mais on s'est repris. On s'est dit qu'on allait offrir des ateliers gratuits en ligne pour montrer aux gens comment fonctionner avec les technologies à distance. On a fait trois ateliers gratuits et le téléphone s'est mis à sonner pour nous embaucher comme facilitateurs de rencontres en ligne. Pendant une période, tout se faisait en ligne. Les organismes n'avaient pas le choix de continuer leur travail. S'ils avaient reçu des fonds pour une planification stratégique, ils devaient la faire ou rendre l'argent, a-t-elle expliqué. Très tôt dans son projet, Simone Cormier a mérité une subvention d'ignition de 25 000 $. Ça a aidé, Mais ça n'a évidemment pas suffi. Je devais obtenir le brevet pour protéger mon invention. Ça coûte très cher. J'ai fait des emprunts avec la BDC et la CBDC. L'APK. Je n'avais pas des ventes de 500 000 $ pour leur prouver mon produit. Je n'entre tout simplement pas dans leurs critères. Il faut avoir le dos solide. J'ai l'appui des gens qui m'entourent, mais ça ne prépare pas pour tous les défis qu'on rencontre, a énoncé l'entrepreneur qui a démarré son entreprise après une carrière au gouvernement fédéral. C'était « Les femmes doivent avoir un dos solide pour se lancer en affaires ». Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 12 octobre 2024 dans « La Voix acadienne » de l'Île-du-Prince-Édouard.
Un abonnement mensuel aux pâtes, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 14 octobre 2024 dans la presse. Pour 199 $ par mois, il est possible de manger des pâtes tous les jours au restaurant montréalais La Popessa. L'abonnement est offert à moitié prix pour les aînés. Ce nom vous est peut-être familier, car La Popessa a connu des jours meilleurs. Le restaurant a jadis eu une vingtaine d'adresses au Québec, jusqu'à ce que les franchisés disparaissent tous, un à un. Reste le restaurant qui se trouve dans le Palais des Congrès de Montréal. Un couple a mis la main sur la marque au printemps dernier et veut la faire revivre. Déjà, les nouveaux propriétaires lancent un concept audacieux, l'abonnement. Il ne s'agit ni d'un prix pour un repas à volonté, ni d'une carte fidélité, mais bien d'un abonnement, comme au gym, pour les pâtes, spécialité de La Popessa. Plus l'abonné fréquente l'établissement, moins cher lui coûtera chacun de ses plats. En plus des aînés qui profitent d'un tarif spécial, la moitié du prix habituel, les étudiants peuvent payer 140 $ par mois. Le forfait familial est de 430 $. La Popessa est réputée pour ses pâtes. Le client choisit son type de pâte et sa sauce. Mais il y a aussi de la pizza au menu, quelques wraps et des salades. L'abonné peut ajouter une salade et une boisson à son repas de pâtes pour 5 $ et a un rabais de 25 % sur tous les autres plats du menu. Une bonne action sociale. Le but du service d'abonnement est d'attirer de nouveaux clients et de les fidéliser, mais aussi de développer un achalandage dans cette partie de la ville, entre le quartier chinois et le Vieux-Montréal. On veut avoir les locaux, explique Abrar Mahmoud Alvala, car la plupart de mes clients sont des touristes. Mais il y a plus. Les commerçants veulent aussi s'ancrer dans leur nouvelle communauté. Abrar Mahmoud Alvala et Naba Hassan Alvala sont venus de Toronto il y a un peu plus de 16 mois, ne parlant pratiquement pas un mot de français. Ils maîtrisent maintenant très bien la langue. Notre entrevue s'est faite au restaurant intégralement en français. Pour y arriver, ils se sont lancés corps et âme dans la consommation de la culture québécoise, avec un penchant pour l'humour. Après avoir énuméré à peu près tous les humoristes membres de l'UDA, le restaurateur confie avoir vu les bye-bye des dernières années, depuis 1996. « Je commence tous mes matins avec l'émission de Patrick Masbourian, » dit-il aussi. Pour faire partager leur amour du français, les deux jeunes entrepreneurs ont instauré dès dimanche Pâtes et Parles pour aider la francisation des nouveaux arrivants. Durant 2 heures, les participants discutent en français et ont droit à un rabais sur leur plat de pâtes. Abrar Mahmoud Al-Vala voit aussi ce côté vocation sociale à son service d'abonnement. Le restaurant a fait un lancement en douceur il y a presque 3 mois. Nous n'avons pas fait de publicité encore, dit le commerçant. Seulement 13 abonnements ont été achetés, mais 2 l'ont été par des personnes qui fréquentent aussi parfois la Mission Old Brewery, un organisme communautaire qui offre des lits et des repas à quelques pas de la Popessa. Les gens nous disent qu'ils trouvent que la vie est dure, confie Abrar Mahmoud Al-Vala. Ils ont un peu d'argent, mais avec 200 $ par mois, ils peuvent manger tous les jours et discuter avec les propriétaires en français. Des essais américains. À l'Association Restauration Québec, on ne connaît pas d'autres entreprises qui sont allées vers ce modèle d'abonnement, mais on cite la chaîne américaine Olive Garden, qui a brièvement tenté le coup des pâtes à volonté en 2019. Aux États-Unis aussi, les cafés Panera Bread offrent un service d'abonnement pour les boissons depuis 2020. Pour $14.99 par mois, les membres du Sip Club ont désormais le choix de 20 boissons et reçoivent des offres exclusives. En ce moment, l'abonnement est gratuit pour les 3 premiers mois. C'était un abonnement mensuel aux pâtes, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 14 octobre 2024 dans la presse.
Hashtag bouche ouverte. Un texte de Nathalie Collard, paru le 4 octobre 2024 dans la presse. Peut-être avez-vous vu passer le mot « clic » hashtag bouche ouverte et tête penchée dernièrement dans les réseaux sociaux. Il faut retourner un peu en arrière pour comprendre son origine. Point de départ. Un abonné du réseau X met en ligne la photo de la chercheuse, autrice et documentariste Léa Clermont-Dion, qui vient de publier le livre « Salut, ça va ?» L'objectif du livre, ouvrir le dialogue avec les garçons sur les notions de masculinité toxique, de culture du viol et de consentement. L'autrice a déjà donné plusieurs conférences et formations sur le sujet un peu partout au Québec. L'individu en question accompagne son commentaire de la photo de Madame Clermont-Dion et qualifie cette dernière de « parasite médiatique », ajoutant « au programme Dogface validation des écervelés et mâles égale mâle ». La publication suscite beaucoup de commentaires, dont celui de l'auteur-compositeur réputé Stéphane Venn qui écrit « depuis que le monde est monde, cette pause » incliné de côté ou vers l'arrière, bouche ouverte, est un code sexuel hyper connu, tant des hommes que des femmes, et tant dans la vraie vie qu'en art, c'est une sorte d'invite. Évidemment, Mme Clermont-Dion a dénoncé publiquement les propos de l'octogénaire qui est conseiller en communication stratégique à la ville de Montréal. Disons-le, ce type d'attaque est récurrent et usé. Pour dévaloriser la parole d'une femme dans l'espace public ou pour la faire taire. On la dénigre, on l'humilie, on la rabaisse au rang d'objet sexuel. Mais ce n'est pas parce qu'il est récurrent et usé que le commentaire fait moins mal. D'autant plus qu'il arrive dans un contexte bien précis qu'il faut rappeler. Le parolier parle d'une femme qui vient tout juste de remporter un procès pour agression sexuelle, procès très médiatisé sur lequel la victime s'est souvent exprimée. Le commentaire de Stéphane Venn nous est arrivé aussi alors que la planète a été ébranlée par le procès de Mazan en France, dans le cadre duquel une 50aine d'hommes, dont le mari de la victime, sont accusés d'avoir violé une femme sous soumission chimique. Malgré les images vidéo qui montrent hors de tout doute que Mme Pellicot a été violée, des avocats de la défense tentent de convaincre le juge que leurs clients ne sont pas de vrais violeurs. On tente de semer le doute dans l'esprit du public. Au fond, Mme Pellicot n'était-elle pas une libertine? S'agit-il vraiment de viol? Le commentaire de Stéphane Venn s'inscrit dans la lignée de ce genre de préjugés. Affirmer que la photographie d'une femme à la bouche légèrement entrouverte est une forme d'invite, c'est l'équivalent de dire qu'une femme victime d'agression qui portait une jupe trop courte l'a bien cherchée, au fond. Et c'est justement ce genre de stéréotype sexiste que des féministes comme Mme Clermont-Dion combattent jour après jour et avec encore plus de force et d'énergie depuis l'avènement du mouvement #MeToo. Les propos du parolier illustrent à quel point il reste encore beaucoup de travail à faire. Qu'un homme en vue comme cet auteur de grand succès québécois, reconnu et célébré, se sente suffisamment décomplexé pour tenir de tels propos dans l'espace public, montre à quel point les femmes ont raison de dénoncer la violence en ligne à leur endroit. Elles en sont les premières victimes. Des hommes aussi reçoivent des insultes en ligne, mais ces insultes ne sont pas liées à leur sexe ou à leur genre. Les femmes, elles, se font traiter de putes et de salopes. On les menace souvent de s'attaquer à leur intégrité physique. Et des propos tels que ceux tenus par Stéphane Venn sont en quelque sorte une invite, pour reprendre ses mots, à continuer. Mercredi, le 2 octobre. Jour national de la non-violence en 2024, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a fait une sortie médiatique à ce sujet, rappelant à quel point ce déferlement de haine est constant et violent. Il y a quelques semaines, c'était la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui dénonçait la haine en ligne en annonçant qu'elle fermait les commentaires à la suite de ses publications sur le réseau X. Le parolier a finalement retiré ses propos et présenté des excuses à Mme Clermont-Dion. Fin de l'histoire? Pas du tout. Cette semaine, Laurie Dupont, chef de contenu pour les magazines Elle Québec et Véro, a mis en ligne une photo d'elle accompagnée du mot « clic » #, bouche ouverte et tête penchée. Mot « clic » qui a suscité une véritable vague de solidarité à l'endroit de Léa Clermont-Dion. Des dizaines de femmes, dont des personnalités comme Kim Lévesque-Lisotte et Valérie Plante, ironiquement la patronne de Stéphane Venn, ont elles aussi publié leurs photos bouche ouverte et tête penchée dans les réseaux sociaux. Ce mot « clic » montre que malgré la violence des attaques, malgré l'intimidation et les agressions verbales répétées, malgré la fatigue ressentie par les femmes qui doivent sans cesse gérer ce type d'attaque, les féministes trouvent encore la force de répondre d'une manière humoristique et non violente aux propos sexistes et dénigrants. Pour reprendre un air connu, non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. C'était #, bouche ouverte, un texte de Nathalie Collard, paru le 4 octobre 2024 dans La Presse.
Québec en sait trop peu sur les bibliothèques scolaires. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 16 octobre 2024 dans Le Devoir. Combien y a-t-il de bibliothèques scolaires dans les 2742 écoles publiques et 354 écoles privées du Québec? Le ministère ne détient pas cette donnée, ni pour le primaire, ni pour le secondaire, tant pour le réseau public que privé, indique la Direction des communications du ministère de l'Éducation, MEQ. Combien de bibliothèques éliminées ces dernières années pour répondre au manque d'espace de classe? Combien de rutilants carrefours d'apprentissage tout neufs? Le ministère n'en a pas la moindre idée non plus. Qui s'est promené dans les écoles du Québec a pu remarquer les grands écarts dans la qualité des bibliothèques quand bibliothèque scolaire il y a. Dans un même centre de service scolaire, celui de Montréal, CSSDM, par exemple, on voit du pire au meilleur. L'école secondaire Robert Gravel, pourtant spécialisée en théâtre, n'a pas de bibliothèque. Les enseignants compensent en chargeant leur classe de bouquins. L'école primaire Saint-Pierre-Clavert, elle, a fermé sa bibliothèque en 2018 pour la convertir en espace d'enseignement. Les livres sont maintenant enfermés dans un placard. il y a de l'ordinaire fonctionnel aussi, comme à l'école primaire Hélène Boulay, où quelques rayons de livres sont casés dans une pièce. Les enfants peuvent les emprunter, parfois sans les sortir de l'école, parfois oui, selon les années. Il existe également des solutions sparadrap, comme le Livroom. Ce camion bibliothèque s'installe une fois par mois dans les cours des écoles primaires Marguerite Bourgeois, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Pascal-Bellon, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Simon-Apôtre et Simone Monnet. C'est une alternative temporaire au problème de fermeture de bibliothèques scolaires que connaît la CSSDM en raison de sa surpopulation, peut-on lire sur le site du Livroom. Du meilleur, il y en a également. Les tout nouveaux carrefours d'apprentissage, ces bibliothèques multidisciplinaires quasi idéales, comme à l'école primaire Christ-le-Roi, qui a une belle et lumineuse bibliothèque qui jouit d'une sélection d'ouvrages récents. Le plus accessible des lieux culturels. Au Québec, combien de livres trouve-t-on en moyenne dans les collections des bibliothèques scolaires? Le ministère de l'Éducation ne dispose pas de cette donnée. Seule la collection de 464 livres numériques fournis à chaque classe par le biais de la plateforme Biblius est sur son radar. Combien de bibliothécaires professionnels compte-t-on dans les écoles québécoises? 157 bibliothécaires qualifiés détenant une maîtrise en sciences de l'information à temps plein, dit le MEQ. Son plan d'action sur la lecture à l'école de 2005 visait 317 bibliothécaires à temps plein pour 2017. La bibliothèque scolaire, c'est le premier et trop souvent le seul lieu culturel que l'enfant va fréquenter dans son parcours scolaire, rappelle Ariane Régnier, présidente de l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires, APSDS, qui signe avec son conseil d'administration une lettre ouverte en nos pages. L'APSDS y dénonce le fossé entre les vieilles écoles et les nouvelles, les bibliothèques qu'on relègue au couloir par manque de locaux et les si belles bibliothèques pédagogiques au carrefour des apprentissages des nouvelles écoles, ainsi que le manque d'écoute du MEQ envers les professionnels du milieu. La bibliothèque scolaire, c'est le lieu où l'élève va apprendre à apprivoiser le monde de l'information, les différents types de textes, les auteurs, les collections, souligne la missive. C'est l'endroit où il peut apprendre à faire des recherches dans un environnement sécuritaire, à sa pointure, poursuit Mme Régnier en entrevue. Car une des clés de l'apprentissage du plaisir de lire, c'est de laisser les enfants lire ce qui leur plaît. À la bibliothèque de l'école, les jeunes peuvent se poser, créer et sortir de la routine de la classe, affirme la présidente de l'APSDS. C'est un safe space aussi, surtout au secondaire. Un projet avorté, un plan sans argent. Deux gouttes d'eau ont fait déborder le vase des membres de l'APSDS. D'abord, le ministère a avorté il y a deux semaines le projet d'un catalogue national pour toutes les bibliothèques scolaires, un système intégré de gestion de bibliothèques dans le jargon. Un projet attendu après 4 ans de travail auprès du milieu. C'est le plus gros défi actuel des bibliothèques scolaires, selon l'association. L'idée? En quelques clics, l'élève et son enseignante pourraient retrouver d'un livre la copie papier sur les rayons, la copie numérique sur sa tablette ou son ordinateur, le livre audio, l'extrait de l'œuvre. Une vidéo a été faite et développée sur le livre par des artistes et des créateurs d'ici. Une capsule en fait mention. C'est dans le catalogue, explique la lettre de l'APSDS. L'écrivain offre des ateliers culturels à l'école? C'est dans le catalogue. Il s'agissait d'une porte ouverte vers un univers culturel riche et de grande qualité qui venait mutualiser les ressources culturelles du Québec, écrit Mme Régnier. Ça avait pour objectif d'augmenter l'accessibilité aux ressources de manière uniforme, peu importe l'école, l'environnement socio-économique et la culture de l'élève. Toutes les ressources culturelles à un seul endroit, explique la lettre. Le MEQ invite maintenant chaque centre de service à choisir sa propre solution, à travailler en silo, comprend Mme Régnier. Ensuite, la deuxième goutte, le nouveau cadre de référence des bibliothèques scolaires, ce guide pour améliorer et uniformiser les bibliothèques des écoles, la vision commune pour en faire des carrefours d'apprentissage nouveau genre, selon le cabinet du ministre Drainville, est arrivé pendant l'été. Sans argent pour l'appliquer, autre que les mesures existantes, qui visent uniquement l'achat de livres. Seules les nouvelles écoles ou grandement rénovées peuvent donc espérer avoir un carrefour d'apprentissage. Ce dernier restera d'ailleurs uniquement une construction, un lieu sans somme pour l'animer et le faire vivre. Il n'y a pas non plus d'argent prévu pour résoudre les inégalités entre bibliothèques scolaires à moyen terme. Antoine de la Durantais, l'attaché de presse du ministre de l'Éducation, se fait toutefois rassurant. On va continuer d'investir dans nos bibliothèques et dans la lecture pour nos élèves. Notre gouvernement reconnaît toute l'importance des bibliothèques scolaires. Le cadre de référence étant récent, il est normal que son déploiement nécessite quelques ajustements, estime le cabinet du ministre Drainville. Des formations pour les bibliothécaires et les techniciens en documentation des CSS sont prévues dans les prochains mois pour présenter les orientations du cadre, enchaîne M. de la Durantais. Il rappelle dans la foulée que l'APSDS a reçu 188 333 $ pour un projet de réseautage autour de ce nouveau cadre de référence. On sait très bien que le système d'éducation au Québec a plein de problèmes urgents, rappelle Ariane Régnier. Les bibliothèques scolaires sont dans le même continuum. On sait qu'on peut développer des outils qui, facilement, peuvent aider les enseignants, même dans l'état actuel des choses. On a l'impression que les expertises, les réflexions de personnes qualifiées qui ont travaillé avec le terrain sont en train de se faire balayer sous le tapis. On est une force, on attend juste les moyens minimaux pour se mettre au travail, affirme la présidente de l'APSDS. Le CSSDM a refusé l'accès à deux de ses bibliothèques aux photographes du devoir. C'était « Québec en sait trop peu sur les bibliothèques scolaires », un texte de Catherine Lalonde paru le 16 octobre 2024 dans Le Devoir.